13h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h, je suis Olivier Delacroix, je suis ravi de vous retrouver chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline. Comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, bonjour Olivier.
Le vélo, ça va?
Bonjour à tous, le vélo, j'ai très mal aux cuisses.
Bon, mais ça va s'arranger, vous allez voir. Bientôt en plus on déménage, donc ça va être encore plus
voilà,
loin.
Voilà, c'est pour
donc
ça.
Il faut s'entraîner.
Exactement.
Pendant cette heure, nous partageons vos expériences de vie, comme vous venez de le voir, nous partageons l'expérience d'Ombline
oui,
à vélo, qui vient chez Europe 1 tous les matins en vélo. Votre vécu nous intéresse ici à Europe 1. Revenons aux choses sérieuses. C'est aujourd'hui la journée mondiale des droits de l'enfant. Des droits encore souvent bafoués puisque chaque jour en France, deux enfants meurent des suites de maltraitance. La maltraitance sur les enfants peut être physique, sexuelle, mais aussi psychologique et elle a des conséquences très lourdes sur leur vie d'adulte ensuite. Comment peut-on déceler qu'un enfant se fait maltraiter? Comment s'en sortir une fois adulte lorsqu'on a été battu ou violenté? Quelle structure existe pour s'en sortir? L'enfance maltraitée, que faire? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons bien évidemment vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et vous n'hésitez pas à composer le 39-21 pour venir témoigner si vous le souhaitez. 39-21, 50 centimes la minute. Vous nous laissez votre message via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et puis bien sûr, Twitter est à votre disposition. Hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Vanessa au 39-21 sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Vanessa, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Bonjour Olivier, j'ai 42 ans et j'appelle de région parisienne.
Alors Vanessa, je crois savoir que vous n'avez pas de souvenir d'avoir été maltraitée par votre mère, car je crois que vous aviez 2 ans en fait, et c'est votre sœur qui vous a raconté ce qui s'était passé en fait dès le premier jour.
Voilà, la première fois que c'est arrivé, je n'ai pas de souvenir. Ma sœur me l'a raconté en 2012. Donc elle s'en souvient puisqu'elle a 2 ans et demi de plus que moi. Moi, non, j'ai pas de souvenir, mais j'ai les souvenirs de tout ce qui a pu se passer après.
Et lorsque votre sœur vous raconte cela, elle vous décrit quelle situation pour ce premier jour, ce jour-là?
Ma mère est arrivée dans sa chambre. Elle dormait, ma sœur, puisqu'il était tard, hein, il faisait nuit. Elle l'a réveillée en la frappant. Ouais. Elle est allée me chercher. Elle n'a pas vu ma sœur, puisque moi j'étais encore dans un lit à barreaux, dans une autre pièce, dans une autre chambre. A priori, elle m'a réveillée de la même façon et elle nous a mis dans la voiture. Et elle l'a roulée toute la nuit sans vraiment de but précis et sans répondre aux questions, sans ouvrir la bouche. Ma sœur posait des questions et pleurait. Et au petit matin, elle a fini par rentrer à la maison.
Vous avez été ensuite victime à nouveau de nombreux actes de maltraitance. Elle vous frappait souvent?
Oui, des coups, des humiliations, des privations. Privation de nourriture, privation plus tard d'aller en classe, privation de soins, puisqu'on n'était pas lavé, on n'était pas pris en charge du tout.
Est-ce qu'il y avait une raison à tout ça en fait? Votre mère vivait-elle une situation particulière avec votre père ou un compagnon à votre avis, ça correspondait à quoi ces accès de violence vis-à-vis de vous?
Alors mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, a priori c'était déjà le cas où ma sœur pense que c'est probablement ce soir-là que mon père le lui a dit.
Oui.
En tout cas, que ça a été officialisé entre eux, qu'elle aurait pété un câble, hein, comme on dit, pardon.
Oui.
Je pense maintenant, avec le recul et toutes les années, que de toute façon, c'est quelqu'un de très déséquilibré d'une manière générale et depuis toujours.
Mais vous évoquez des violences psychologiques lorsque votre père était déjà là, en fait, ou en tout cas, des réactions de votre père par rapport à cette violence de votre mère. Racontez-moi.
On parlait pas, on ne disait pas clairement les choses, on n'appelait pas un chat, c'est-à-dire qu'on n'a jamais raconté ce qu'on subissait vraiment. Mon père savait certaines choses, ou en tout cas le soupçonnait, et a tenté de nous garder, par exemple, certains week-ends où il nous avait en charge. Il a tenté de faire intervenir une assistante sociale. Ma mère étant quelqu'un d'assez manipulateur, elle a toujours réussi à retourner les choses pour que ce soit pas... qu'elle ne soit pas considérée comme quelqu'un de maltraitant, en fait.
Vous considériez votre mère comme une femme pas très équilibrée en fait, parce que en fait, lorsque vous aviez une douzaine d'années, votre mère s'est mise à nouveau avec un compagnon et elle n'était jamais à la maison et vous étiez vous et votre sœur livrés à vous-même. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là en fait?
En fait, pas un souvenir particulièrement plus traumatisant qu'avant, puisque d'un certain côté, j'étais tranquille.
Oui.
Parce que je me suis prise en charge très jeune, dans la mesure de mes capacités, en fonction de mon âge. Mais un réel sentiment d'abandon que je traîne encore aujourd'hui à l'âge adulte.
Bien évidemment. On l'abordera dans la seconde partie de l'émission, justement, quel impact cela a pu avoir sur vous, puisque en fait on va parler aussi de votre adolescence, puisque vous êtes ensuite allé en internat par choix, ou c'est elle qui vous a mis en internat?
Non, c'était par choix, c'était par l'orientation choix. Professionnelle, oui.
Mm-hmm. Mais lorsque vous rentriez chez vous le week-end, vous dormiez dans une caravane, pourquoi?
Parce que pour des raisons pratiques, parce que la personne avec qui ma mère était avait une maison, hein, donc il nous a hébergés, moi et ma mère, mais enfin voilà, on est allé vivre chez lui, mais la maison était trop petite, il avait 3 enfants, et c'est cette solution qui a été trouvée pour moi.
Cette solution, c'était que Vanessa aille dans le fond du jardin dans la caravane, en fait.
C'était ça.
Vous restez en ligne avec nous, Vanessa. Dans quelques instants, nous allons continuer de parler, bien évidemment, de votre histoire.
Europe 1. Des enfants victimes de maltraitance, quels sont les signes qui doivent alerter? Vous témoignez, nous vous écoutons au 39-21. Vous réagissez aussi par écrit sur Twitter, hashtag Europe 1. Nous vous lisons également via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Enfants victimes de violences physiques, de cruauté mentale, d'agressions sexuelles, de négligence lourde. Nous en parlons avec vous cet après-midi. L'enfance maltraitée au 39-21. Vous pouvez venir échanger avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous sommes toujours en ligne avec Vanessa qui nous raconte aujourd'hui son histoire, l'histoire de violence avec sa mère. Vanessa, vous avez été maltraitée physiquement, puis
oui.
Psychologiquement.
Oui.
Je voulais savoir, est-ce que votre mère trouvait toujours une raison pour commettre ces violences? Est-ce qu'elle se justifiait?
Oui. Elle les justifiait. Et elle les justifiait par des choses pas rangées, par un comportement, entre guillemets, un peu fainéant, par des mauvais résultats à l'école, systématiquement par quelque chose. Et elle se dédouanait de ce comportement en nous disant qu'il y a des enfants qui subissent pire, que de toute façon, si on en parle, on ne serait pas cru. Et puis toute une manipulation mentale non verbalisée qui consistait à nous dresser, entre guillemets, à la servir.
Mmh.
Et à ne surtout pas la froisser.
Donc une justification de ces violences. Et vous, du haut de vos 12 ans, ensuite de vos 14 ans, de vos 16 ans, vous les preniez comment, ces justifications, ces excuses?
Alors, très progressivement, la conscience m'est venue, mais j'ai quand même le sentiment, enfin aujourd'hui quand je regarde en arrière, c'est comme un brouillard qui était devant mes yeux. Petit à petit dans ma vie, avec la maturité, j'ai ce brouillard qui s'est levé.
Oui.
Et c'est là que j'ai pris conscience des manipulations. Et ça fait vraiment très peu de temps, moins d'un an, que j'ai vraiment conscience de
cette violence.
Que c'est une personne malade. Des violences en elles-mêmes, non, mais du fait que c'est de toute façon pas du tout justifié, pas du tout mérité, et au contraire quelque chose d'assez pervers.
Et cela a sans doute un rapport avec le fait que vous soyez maman aujourd'hui, ce brouillard qui se lève.
Oui. J'ai eu peur quand je suis devenue maman. J'ai 2 enfants, un de 14 ans, un de 10 ans. J'ai eu très peur de reproduire, tout en sachant que je ne reproduirai pas. Mais il y a toujours des choses, je pense, qu'on reproduit d'une manière ou d'une autre. Moi, je joue très peu, par exemple, avec mes enfants. J'attends d'eux pas mal de choses, dans le sens où je me dis que moi je m'en suis bien tirée, donc il n'y a pas de raison. Mais la violence physique et la maltraitance, la privation de soins ou de nourriture, etc., j'ai jamais reproduit, et ça m'a effectivement bien donné la valeur et la mesure des souffrances qu'on peut infliger à un enfant qui n'a rien demandé, qui n'a rien mérité.
Mais alors, quel impact, à votre avis, cela a-t-il eu sur vous, dans votre construction, en fait, aujourd'hui?
Un énorme sentiment d'abandon,
oui.
Très fort. et une fragilité émotionnelle qui est assez importante aussi.
Qui se traduit comment, en fait ?
Je suis toujours dans l'insécurité dans mes relations
avec les hommes.
Sentimentales.
Oui.
Voilà, déjà d'une manière générale avec les autres.
Avec les autres.
Toujours dans le doute de savoir pourquoi est-ce que telle ou telle personne peut s'intéresser à moi ou me manifester de l'intérêt ou faire quelque chose pour moi tout simplement.
Oui.
En me disant qu'il y a forcément une raison, un intérêt derrière et que ça peut pas être gratuit.
Qu'entendez-vous par là ?
C'est-à-dire que je peux pas juste m'aimer pour ce que je suis, mais que derrière c'est parce qu'on attend de moi quelque chose, que je sois, enfin que je serve à quelque chose de concret.
D'accord, un donné pour un rendu en fait finalement, quelque
voilà.
chose toujours
voilà.
être en dette. Vous avez encore des relations avec votre mère aujourd'hui ?
Non, plus depuis un an.
D'accord.
C'est devenu trop difficile.
Est-ce que c'est quelque chose avant de rompre vraiment la relation avec elle ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réussi à aborder avant ?
En pointillé, j'ai eu des périodes où effectivement j'avais aucun contact et puis je reprenais contact pour les anniversaires des enfants, ce genre d'événements, vraiment pour les enfants. Et puis j'en suis arrivée à la conclusion que c'était de toute façon que ça leur apportait rien de plus à eux.
Oui.
Et que c'était beaucoup trop dur pour moi et que c'était de toute façon la priorité.
Vous en parlez autour de vous, de cette période-là, des conséquences que cela a eu sur vous, sur votre vie de femme aujourd'hui, lorsque vous évoquez cette fragilité, cette peur de l'abandon. Est-ce que vous en parlez, vous consultez un psy, vous en parlez à des amis proches ? Est-ce que vous allez chercher des réponses ailleurs puisque cette mère ne vous les donne pas ?
C'est difficile, je peux parler facilement de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi.
Oui.
Quant à parler de l'impact aujourd'hui sur moi, c'est compliqué. Je me dois toujours d'être forte, de vaincre, quelle que soit la situation. Et oui, c'est vraiment être forte. C'est l'instinct de survie. En fait, je pense qu'on développe, tous les enfants maltraités, je ne pense pas me tromper en le disant, développent cet instinct de survie et cet instinct de toujours anticiper les situations, analyser les réactions des gens et vouloir se protéger. Et c'est vrai que cet instinct de survie est très très présent, ce qui est une bonne chose dans la vie de tous les jours, la vie qu'on mène de nos jours, mais je fonctionne quasiment que comme ça.
D'accord. Vos enfants ont quel âge aujourd'hui ? Vous en avez combien ? Ils ont quel âge ?
J'ai deux garçons qui ont 14 ans et 10 ans.
14 ans et 10 ans. Et ça se passe bien ?
Oui. Oui, oui, ça se passe bien. On est très fusionnels, très proches. Moi, je suis maman solo depuis 10 ans maintenant. Donc, je les ai élevés seuls quasiment tout le temps. Et oui, ça se passe très bien. On est très complices. Et
on rattrape, on rattrape un peu le temps perdu, non ? Vous, en tant qu'enfant ?
Ça guérit des choses. Ça guérit des choses chez moi. D'apporter à ses enfants ce que moi, je n'ai pas pu avoir.
Très bien. Merci infiniment, Vanessa, pour votre précieux témoignage. Dans quelques instants, je vous en prie, dans quelques instants, nous accueillerons Michel Martzloff. Il est secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée.
Et Jocelyne réagit au 39-21. Quand le voisinage, la famille, le milieu scolaire sont au courant des maltraitants, c'est qu'ils ne font rien. Sont-ils poursuivis pour non-assistance à personne en danger ? Pour les gens qui font des signalements, ajoute Jocelyne, il faut aller jusqu'au bout.
Europe 1.
Enfant, vous avez subi des violences et vous souhaitez témoigner. On vous écoute au 39-21. Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous retrouvez Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons des enfants victimes de maltraitance, des histoires insoutenables, souvent aggravées par le silence des proches. On vous écoute au 39-21.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Michel Martzloff, secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu, Enfance Maltraitée. Bonjour et merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Monsieur Delacroix.
Bonjour. L'association L'Enfant Bleu a été créée en 1989 car sa fondatrice elle-même était victime de maltraitance. Trouvait qu'il y avait des dysfonctionnements au niveau des institutions dans la prise en charge des enfants victimes de violences. Comment prend-on en charge un enfant maltraité aujourd'hui ?
Alors, ce que l'association propose, c'est à la fois aux enfants qui sont victimes de maltraitance par l'intermédiaire, bien sûr, des adultes qui les représentent, ou bien même des adultes qui ont été victimes dans leur enfance de maltraitance, propose une écoute, ça c'est la première chose. Ensuite, un accompagnement juridique, quand les actions au niveau donc de la justice sont possibles, et également un soutien psychologique sous forme de thérapie de longue durée. L'association prend les gens en charge le plus rapidement possible, pratique les enfants immédiatement, et propose donc quand c'est nécessaire une thérapie immédiate et dans la durée. Mmh.
Mais en fait, par quel biais en fait ces enfants arrivent chez vous en fait
Alors ils peuvent arriver soit par des adultes qui nous appellent, ça peut être une maman, une grand-mère, un papa, ça
des
peut être un professionnel.
Aussi Pardon ? Des voisins aussi ?
Oui, ça peut arriver, bien sûr, des voisins qui signalent. Alors dans ces conditions-là, quand un voisin signale un soupçon de maltraitance, on est plutôt amené à faire un signalement ou une information préoccupante au niveau du bureau départemental qui s'occupe de ces situations.
Mm-hmm. Non, je vous pose cette question parce que en fait, bien évidemment, on vit c'est un certain effroi de se dire que il y a encore des enfants qui meurent aujourd'hui sous les coups de leurs parents, on l'a vu dans récentes affaires, et qu'il y a encore des manquements pour que ces enfants en arrivent là.
Alors, je crois que c'est un problème qui concerne tout le monde.
Oui.
On ne peut pas demander aux enfants de se plaindre, c'est très compliqué. Bien sûr, nous faisons des préventions dans les écoles, où on essaye de donner des réflexes aux enfants qui consistent à repérer une personne de confiance. Vous savez, les maltraitances, comme la situation de Vanessa, ça se passe principalement dans les familles. Difficile de se plaindre quand on imagine les conséquences. Aussi, c'est aux adultes de s'en charger. Et quand un voisin nous appelle, nous, on est amené, si vous voulez, même en respectant l'anonymat de la personne, parce que souvent les gens préféreraient ne pas apparaître, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là, nous pouvons nous charger soit de les aider à rédiger le signalement, soit le faire nous-mêmes, nous le prenons à notre compte, ce qui est le rôle de l'association.
Mmh. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent tout de suite, je sais que cette question peut paraître un peu bénigne, un peu répétitive, mais comment peut-on déceler qu'un enfant est victime de maltraitance ? Quels sont les signes ?
C'est assez compliqué parce que en fait, il n'y a pas un signe qui va vous permettre de dire tiens, cet enfant est maltraité. C'est une multiplication de signes. Ça peut être par exemple des signes physiques ou psychosomatiques. Ça peut être des difficultés scolaires. Un enfant qui était un bon élève et puis qui, du jour au lendemain, ses résultats s'écroulent. Ça peut être un changement dans le caractère, une agressivité, la colère. Je pense que quand des parents ou une autre personne détecte cela chez l'enfant, il faut lui parler. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe, dans quelle situation quelle situation il est en train de vivre.
Michel Maslov, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu, enfance maltraitée. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.
D'accord. Enfin,
nous parlons de l'enfance maltraitée, vous en avez été victime. Comment se reconstruire adulte? Si vous souhaitez apporter votre témoignage, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Merci de choisir Europe 1. Cet après-midi, nous parlons de l'enfance maltraitée, des enfants victimes de la violence des parents, des proches, violence physique, psychologique, des enfants traumatisés qui gardent le secret. Quels signes doivent alerter? C'est votre histoire. Comment en êtes-vous sorti? N'hésitez pas à venir témoigner, à vous exprimer sur l'antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21. Carole Fredericks, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones avec juste après sur Europe 1. Le 119, le numéro d'Allo Enfance Maltraitée. Vous avez été victime d'actes de violence commis par vos parents, par un proche lorsque vous étiez enfant. Vous témoignez sur Europe 1. Olivier Delacroix vous écoute.
Et nous sommes toujours en ligne avec Michel Maslov, secrétaire général de l'association L'Enfant Bleu Enfance Maltraitée. Michel Maslov, faudrait-il un ministère de l'enfance, comme certains le suggèrent, pour mobiliser comme il se doit le gouvernement?
Bien sûr, c'est une de nos demandes. Dans le précédent gouvernement, il y avait Laurence Rossignol qui était à la tête d'un ministère qui, entre autres, s'occupait de la défense des droits de l'enfant, et qui a produit au mois de mars 2017 une loi instituant un certain nombre de choses, telles que la formation des professionnels ou d'autres points comme ça. Nous, nous demandons effectivement qu'il y ait soit un ministère, soit une délégation ministérielle qui s'occupe précisément de ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, l'État ne fait pas tout ce qu'il devrait faire pour protéger nos enfants.
Alors, justement, venons-en, à votre avis, les premiers points que vous souleveriez, à améliorer, sur lesquels on devrait aller et travailler, quels sont-ils?
Oui, bien sûr. Il y en a beaucoup. Déjà donné, vous avez parlé du 119 et vous avez bien raison de le dire, le numéro national d'appel pour signaler des situations de maltraitance, de donner à cet organisme des moyens financiers suffisants pour pouvoir accueillir les 8 ou 900 000 coups de téléphone qu'ils reçoivent tous les ans.
Alors, quel type de moyens? Restons sur ce point-là parce qu'il me paraît essentiel. Oui. Voilà, 8 ou 900 000 appels. Aujourd'hui, on manque de moyens. Quels moyens apporter, justement?
Bien, les moyens, si vous voulez, c'est une aide. D'abord, c'est pouvoir déclencher
des investigations, des vérifications.
Déclencher, si vous voulez, des enquêtes au niveau des familles quand elles font l'objet d'un signalement.
D'accord.
La possibilité donc d'effectuer des placements ou des suivis par des travailleurs sociaux qui ne soient pas reportés à 5 ou 6 mois comme sont malheureusement obligés de le faire les juges des enfants faute de place. Mmh. Et ça, c'est un problème uniquement, c'est un problème financier pour former des gens. C'est également de faire avancer la loi. Ça, c'est l'autre aspect des choses. Nous avons déploré, mais toutes les associations, y compris les associations féministes, la loi qui est sortie il y a au mois de juillet 2018, qui avait pour but de dire au départ, le président l'avait dit, qu'un enfant ne peut pas être consentant à un viol en dessous de l'âge de 15 ans.
Oui.
Et malheureusement, aujourd'hui, la loi a avancé très très légèrement, mais elle demande encore à l'enfant de prouver qu'il n'avait pas le discernement nécessaire à l'acte qui allait se produire. Pour nous, il n'y a pas, quelles que soient les conditions, un enfant victime d'un viol, quelles qu'en soient les conditions, ne peut pas être consentant.
Michel,
malheureusement, dans beaucoup d'affaires, compte tenu de ce que la loi dit aujourd'hui, un enfant peut être considéré comme n'ayant pas réagi face à une situation qu'il ne comprend pas, qui le sidère et qui le rend incapable d'une réaction quelconque, de se défendre, par exemple.
Une situation qui lui échappe, finalement.
Ce qui lui échappe complètement.
Mmh. Michel Martelov, restez en ligne avec nous. Nous allons prendre avec nous Antoine. Bonjour Antoine, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
47 ans et je suis à Nice.
D'accord. Vous écoutiez avec attention, je le sais, les propos de Michel Martelov sur une situation qui peut échapper à un enfant. Qu'en était-il pour vous d'abord, voilà, quel type de situation avez-vous vécu et est-ce que ces situations-là vous échappaient ou est-ce que vous aviez parfaitement conscience de vivre
Si vous me permettez, il y a une réalité, c'est que l'enfant, tant qu'il est enfant, personne ne croit ce qu'il dit.
Mmh. Ça a été votre cas ?
Ça a été mon cas. Le monde des adultes est totalement imperméable à ce que peut dire un enfant.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Antoine ?
Mais parce que je l'ai vécu moi-même.
Mmh. Alors, dans quelles conditions ? Racontez-moi ça.
Assez rapidement, j'ai essayé de dire ce que je vivais à la maison. Alors, je ne suis pas resté longtemps, puisqu'à 4 ans et demi, j'ai été placé ensuite, mais je me souviens qu'à 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, déjà, je disais ce que je vivais à la maison.
À qui le racontiez-vous ?
Alors, en fait, on habitait à Villejuif et j'étais à une crèche, une école maternelle, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque. Oui. Et tous les matins, à 5h, 5h30, ma mère me déposait devant la porte. Été comme hiver.
Oui.
Et j'attendais là pendant une heure et demie, que les cantinières arrivent pour commencer à faire le chocolat pour les enfants qui arrivaient. Mmh. Et un jour, on me dit, mais qu'est-ce que tu fais là, à cette heure-là? Tous les matins, tu es là. Et là, j'ai commencé à parler, on m'a fait faire des dessins. Je me souviens, on mettait une petite blouse de couleur, on faisait des dessins, de la peinture à l'eau. Et là, les adultes ont commencé à creuser. Mmh. Ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose. C'est pas normal qu'un enfant de 4-5 ans attendent comme ça dans la nuit que les adultes arrivent pour lui ouvrir la porte. Et donc là, je commence ensuite à m'ouvrir, mmh. à dire un petit peu, puisqu'on me pose des questions, mais où est-ce que tu habites, etc. Et donc, je dis le calvaire que je vis.
Vous commencez à parler, Antoine.
Je commence à parler.
On va marquer une petite pause et on va parler de la suite de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1. Des enfants victimes de violences chez eux, violences physiques, psychologiques, de graves négligences. C'est votre histoire. Nous vous écoutons au 3921. Composez le 3921 pour venir témoigner sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de la maltraitance infantile, des enfants victimes de violences commises par leurs parents, par un proche.
Alors nous sommes toujours avec vous, Antoine. Vous nous racontiez les maltraitances dont vous étiez victime, enfant, en tout cas de négligence pour l'instant. Nous avons parlé de négligence, de vous avoir laissé. Mais vous avez quand même vécu l'impensable. Vous venez d'une famille très religieuse. Quelques jours après votre naissance, votre père est décédé sur un chantier. Et vous dites que vous êtes alors devenu l'enfant du mal. Qu'avez-vous vécu au-delà des négligences que vous nous avez racontées dans cette...
Je mangeais debout. Je n'avais pas le droit de m'asseoir à table. Je mangeais debout dans l'évier.
Dans l'évier.
Là où on fait la vaisselle, quoi. Et un jour, je me suis écroulé. Je suis tombé par terre. Je me suis évanoui. Personne ne s'est interrogé pourquoi. Hein.
Et à quoi vous attachez, en fait, ces maltraitances dont vous avez été victime
Vous savez, dans ces vieilles, entre guillemets vieilles, mais dans ces familles religieuses des fins fonds de l'Italie du Sud, il y a des croyances, des superstitions, voilà, pas des croyances.
Ces croyances portées sur votre naissance,
oui, sur ma naissance,
votre arrivée avait amené finalement le départ de votre père, c'est ça?
C'est ça, tout le monde a cru, puisque j'avais 3 ans quand mon papa est mort, et tout le monde a cru que c'est à cause de moi si mon père est mort. Mmh. Voilà. Ça a été formulé très clairement, hein, même devant le juge des enfants. Donc c'était très clair, c'est marqué dans mon dossier à Créteil. Quand on y repense, on se dit mais c'est juste invraisemblable.
Invraisemblable.
On vivait dans un autre monde.
Quelqu'un a alerté les services sociaux à l'époque, en fait. Comment vous êtes retrouvé devant le juge et finalement placé?
Allô, allô?
Oui, je suis là, Antoine.
Ah, pardon. Alors, c'est venu très tard. En fait, à 4 ans, alors, après la petite maternelle, j'ai été placé.
Oui.
Au foyer Adolphe Chériot à Vitry-sur-Seine, là où on plaçait les bébés X. Mmh. Les enfants dont la mère n'avait pas voulu reconnaître la naissance. Et donc j'étais pensionnaire là-bas, j'y vivais tout le temps. C'était ma famille. Mmh. Et les éducateurs, donc là, percent un peu. Il n'y avait que des cas sociaux, hein, il faut bien être honnête, on est quand même des cas sociaux. Mmh. Malgré nous. Il y a des veillées le soir et on voit bien un enfant qui se détache un peu du groupe, ce qui était mon cas. Je voulais pas trop aller avec les autres, je préférais être tranquille, être dans mon lit, à lire un petit livre.
Quelles séquelles gardez-vous aujourd'hui, Antoine, de cette enfance, de ces maltraitances
Je garde déjà des séquelles physiques que je vois tous les jours. Mmh. puisque j'en ai des marques sur mon corps.
Oui.
Vous savez, quand on vous brûle à vif pour vous montrer que le feu, ça brûle, vous pouvez pas oublier ça. Mmh. Et quand vous vous lavez, même 40 ans après, vous avez toujours les traces.
Je comprends que vous soyez encore très marqué par tout ça. En fait, Michel Marzlov, je me retourne vers vous pour que vous nous apportiez juste vos lumières sur le fait que Antoine souligne que les enfants ne sont pas creux. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez en règle générale, cette parole de l'enfant qui est encore remise en question aujourd'hui?
Bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Antoine fait partie des 20% de gens qui ont osé parler. 80% des victimes, des enfants ne parlent pas. Et quand ils parlent, on retrouve exactement ce que dit Antoine, c'est-à-dire que les gens, je dirais que à peu près les 50% des gens à qui on a confié ce genre de situation ne réagissent pas. Ils réagissent pas et alors ils utilisent des faux semblants du style bon, on a peur de se tromper, et puis l'éducation des enfants chez le voisin, ça ne me regarde pas, ça regarde le voisin. Ce qui évidemment n'est pas vrai de mon point de vue. Hein. Mmh. Tous les enfants sont nos enfants quand ils sont en situation de maltraitance. Mmh. L'autre point, si vous voulez, c'est que quand les gens décident d'intervenir, et là je remarque que c'est quand même l'institution scolaire, si je ne me trompe pas,
exactement,
qui a déclenché mmh. les choses, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc quand les gens parlent, essayent d'intervenir, pardon, ils font des choix très discutables. C'est-à-dire, ils s'adressent à des adultes, ils en parlent à la famille, ils en parlent à l'enfant. Pire, on en parle à la personne qui est l'auteur présumé. Mais le recours à des institutionnels, comme les services sociaux, la police, une association, le 119, c'est très très rare. Et en plus, ce sont quand on dit aux gens « Est-ce que vous connaissez tel... la brigade des mineurs, par exemple,
mineurs, ouais.
Très peu de gens sont capables de vous dire à quoi ça sert. Mmh. Donc il y a une très forte méconnaissance et les Français, quand on les interroge, demande à être informé sur le sujet.
Michel Marzlov, restez en ligne avec nous. Le temps juste de remercier infiniment Antoine pour son témoignage et pour son appel. Et voilà, et vous souhaitez bonne continuation, Antoine. Dans quelques instants, nous allons accueillir Hélène, qui a été elle aussi victime de maltraitance par son père et par sa mère. On se retrouve dans quelques instants.
Oui. Et Anne-Marie témoigne également au 39-21. J'étais une enfant maltraitée jusqu'à 12 ans. On m'a ensuite placée à la DAS. À 35 ans, j'ai eu un déclic. Que j'étais alcoolique. Comme ma mère, je me détruisais de la même manière. J'ai décidé de réagir. Il fallait que je dépasse mon passé.
Europe 1.
Enfant, vous avez subi des violences par vos proches. Comment ? Adulte, vous êtes-vous reconstruit ? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Europe 1.
Comment agir et venir en aide aux enfants maltraités? Vous avez été victime de violences commises par un proche lorsque vous étiez enfant. Nous vous écoutons sur l'antenne d'Europe 1 le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix. Voici Oshi avec Femme à la mer. Sur Europe 1 avec Femme à la mer. Nous parlons de l'enfance maltraitée cet après-midi. Que faire si on est témoin? Comment se reconstruire si on en a été victime? Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes maintenant avec Hélène. Bonjour Hélène et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour.
Bonjour Hélène. Malheureusement, il ne nous reste que 2 minutes 30 pour finir cette émission. On aurait eu besoin d'une deuxième heure pour traiter de ces violences faites aux enfants. Je vais résumer votre histoire et surtout aller vers l'essentiel de ce que représente votre histoire aujourd'hui, le présent. Vous avez été victime de maltraitance par votre père, par votre mère. Votre mère a même essayé de vous étouffer quand vous aviez 3 mois. Ensuite, vous avez eu deux grandes filles. Et avec ces deux grandes filles, vous avez pu avoir des gestes durs envers elles.
Oui.
Vous n'arrivez pas à communiquer là-dessus. Vous étiez dans cette chose qui dit que les enfants maltraités reproduisent ce qu'ils ont vécu. Et vous suivez aujourd'hui une psychothérapie. Vous reconstruisez aujourd'hui. Racontez-moi.
En fait, moi, ce qui me semble le plus important, c'est parce qu'il faut aller très vite. C'est, en fait, c'est bon, après, il y a une histoire de droit et de devoir. Il y a toujours, voilà, c'est mon éducation, hein, avec le bon et le mauvais. Beaucoup de devoirs, pas beaucoup de droits. J'ai appris à avoir des droits. Et c'est la psychothérapie, en fait, qui m'a appris à avoir ces droits. Mais j'avais aussi cette notion de devoir. Et je trouve que, enfin, moi, mon témoignage aujourd'hui, c'était particulièrement sur le fait le devoir qu'on a aussi par rapport à ses enfants,
oui.
Et pour essayer d'arrêter le cercle vicieux. Mmh. Je trouve que c'est très important. Alors c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde, mais je crois que de mettre des mots dessus, de pouvoir dire voilà, là je crois que je vais atteindre un point de non-retour, ou je crois que j'ai eu un geste qui me fait penser que j'aurai de la maltraitance envers mon enfant, pouvoir en parler, pouvoir trouver les bonnes personnes. Et pour ensuite faire en sorte que, déjà par amour pour ses enfants, ça se reproduise pas. Et parce que ça, je trouve que c'est très très important, parce que je crois qu'il y a certaines choses qui sont générationnelles, en fait. Mmh. Il y a une part d'éducation, c'est ce que je disais tout à l'heure au standard. Mon père, c'est différent. Mon père, je crois que c'était une histoire d'éducation, une histoire de période. C'est une famille où on ne parlait pas. Mmh. Voilà, on ne parlait pas. Quand ça n'allait pas, on mettait une baffe et on ne parlait pas pour le reste. Mmh. C'est ce que je disais, vous aviez 18, on va vous dire, c'est bien, mais tu aurais pu avoir 20. Ma maman, c'est beaucoup plus compliqué. C'était maltraitance physique, psychologique, liée, je pense, à un état mental malade,
ouais.
Défaillant et malade. Mmh. Mais ensuite, moi, pour moi, là où c'est important, c'est qu'après, parce qu'après, quand on n'a pas reçu l'éducation, quand on ne sait pas faire... C'est très compliqué. Moi, j'ai eu des enfants très tôt, je pense, pour me libérer aussi de toute cette pression familiale.
Ouais.
Mais ensuite, je me suis rendu compte que je ne savais pas faire.
Mmh.
Et j'avais l'impression de savoir faire, mais je n'arrivais pas à parler. C'était très important. Et c'est là que j'ai dit, voilà, j'ai pris quelqu'un, un intermédiaire, et il m'a fallu quand même quelques années avant de mettre des mots dessus. Et moi, là où j'insiste, c'est vraiment ne pas avoir peur de dire qu'on peut ou qu'on a été maltraitant pour ensuite casser ce cercle vicieux et pouvoir ensuite avancer personnellement et aussi pour ses propres enfants.
Et même si nous n'avions pas beaucoup de temps pour vous écouter, mmh. Hélène, en quelques mots, voilà, vous nous avez expliqué quelque chose de primordial. Ne pas retourner cette violence qu'on a subie contre ses enfants. Et j'entends qu'aujourd'hui, en tout cas, j'entends une certitude dans vos mots et dans votre voix qui fait que je sens que ça va beaucoup mieux depuis que vous avez entamé cette démarche-là. Merci Hélène pour votre témoignage. Merci aussi à Annie, merci à Vanessa, à Michel Marsloff de l'Enfance Bleue. Merci aussi à Antoine de nous avoir appelé. C'est la fin de cette émission. En cette journée mondiale des droits de l'enfant, il est important de rappeler que les enfants sont encore nombreux aujourd'hui à être violentés et qu'il est difficile pour eux de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. C'est aux adultes d'agir et de ne pas fermer les yeux. En cas de doute pour un enfant, vous pouvez appeler le 119, le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée, communément appelé Allo Enfance Maltraitée. Il existe aussi des associations pour prendre en charge les enfants et les adultes, l'Enfant Bleu par exemple, la Voix de l'Enfant ou encore Enfance et Partage. Vous pouvez continuer à en discuter sur le groupe de parole sur Twitter, sur notre page Facebook et sur tous les réseaux sociaux.
Bien sûr, et si vous souhaitez poursuivre et échanger le soir avec Sophie Peters, vous confiez lors de la libre antenne d'Europe 1, rendez-vous entre 22h30 et 1h du matin sur Europe 1.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble de la maternité tardive. 4,1% des femmes qui ont eu un enfant en 2016 avaient plus de 40 ans. Est-ce par choix? Est-ce toujours mal vu d'être mère tard, comme on dit ça? Alors si vous avez eu un enfant tardivement, si vous refusez l'idée selon laquelle il faut être mère avant 35 ans, si vos parents à vous sont âgés ou vous ont eu âgés, eh bien c'est la même chose en même temps.
Oui.
Appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Nous serons là pour vous écouter. J'étais ravi de passer 7 heures avec vous, chers
également.
Auditeurs, avec vous aussi, on
vit.
Je vous
demain.
Laisse maintenant avec l'excellente Laurence Boccolini.
Oui.
Avec qui on va jouer avec qui aujourd'hui?
Avec Jérôme Anthony.
Jérôme Anthony.
On va chanter des trucs des années 80.
Ah ouais,
disco.
La chanson française
et du disco.
La chanson.
Disco.
Non,
disco, disco, toute une époque.
Marie-Thi Gilbert Carpentier.
Toute une époque. Patrick Juvé, tout ça.
Si allez, vous voulez, si vous voulez.
Bonne émission,
merci,
les filles.
Merci, et
salut, à demain.
Europe.